émission de l'histoire de l'humanité. Près d'un milliard d'électeurs, 968 millions d'Indiens, dont 22% qui ont moins de 30 ans. Un scrutin qui se déroule jusqu'au 1er juin. L'Inde commence à voter aujourd'hui pour choisir les 543 députés de la chambre basse de son parlement, le Lok Sabha. L'issue fait peu de doute. Le parti fondamentaliste hindou du Premier ministre sortant, l'indéboulonnable Narendra Modi, remportera la majorité. Un sondage paru le 6 mars dernier créditait le chef du gouvernement de 75% d'opinion favorable. Ce serait son troisième mandat à la tête du pays. Et Modi a un allié de poids en Inde, c'est Bollywood, l'industrie du cinéma mise à contribution par les nationalistes hindous au pouvoir qui influence le cinéma à tel point qu'une dizaine de films sortent ces jours-ci avec des histoires proches de la propagande gouvernementale. Explication avec François Corbion.
On vous a dit que l'Inde avait obtenu son indépendance à travers la non-violence, mais cette histoire est différente. Voici la bande-annonce choc du film sur Vinayak Sarvakar, l'idéologue suprémaciste hindou adoré par le gouvernement, dont une biographie flatteuse vient de sortir. Dans la même verve, un long métrage encense ces jours-ci la décision du gouvernement d'abroger l'autonomie du Cachemire en 2019. Enfin, un brûlot présente la plus grande université de gauche du pays comme un repère de terroristes. En quelques années, Bollywood s'est transformé en une caisse de résonance des idées des nationalistes hindous. Les réalisateurs de ces films sont promus et récompensés par le gouvernement et les tickets d'entrée sont exemptés de taxes. A l'inverse, les voix dissidentes, elles, sont réprimées, comme en témoigne ce réalisateur indépendant qui préfère témoigner de manière anonyme.
Les personnes qui critiquent ouvertement le gouvernement n'arrivent plus à travailler. Or, si nous ne pouvons plus travailler, nous devenons insignifiants. Et ce n'est pas seulement Bollywood. Les plateformes internationales de streaming refusent aussi de travailler avec ces artistes.
Parmi les voix dissidentes, seules quelques stars, comme le musulman Shah Rukh Khan, arrivent à s'en sortir grâce à leur statut d'idole intouchable.
Voilà, la liberté de création, la liberté d'expression et la liberté d'informer qui pose question également en Inde. L'Inde, c'est aussi un pays devenu dangereux pour les journalistes. 28 journalistes tués en 10 ans. L'Inde, 161e sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse. On en parle ce matin avec Célia Mercier de RSF, Reporters sans frontières. Bonjour.
Bonjour.
28 journalistes tués en 10 ans. Peut-on mettre des noms sur ces chiffres? Qui sont ces journalistes? Quelles sont leurs histoires?
Alors, ces journalistes, ce qui est très alarmant de constater, c'est que presque la moitié d'entre eux ont été assassinés pour des histoires, pour des sujets sur lesquels ils enquêtaient qui sont liés à l'environnement. Par exemple, les expropriations de terres, l'exploitation minière et l'exploitation illégale de sable. Donc, il y a plusieurs d'entre eux qui s'étaient intéressés à la mafia du sable, qui est un réseau de crimes organisés, des groupes criminels donc, qui vont exploiter le sable et qui ont des liens avec les pouvoirs locaux et bénéficient d'une impunité quasi totale. Donc, on peut voir notamment que les enquêtes sur ces assassinats n'aboutissent généralement pas. On peut parler par exemple du journaliste indépendant Jagendra Singh qui a été brûlé lors d'un raid policier et qui travaillait sur la mafia du sable dans l'Uttar Pradesh, Sandeep Sharma qui travaillait sur la mafia du sable et qui a été mort, qui est mort écrasé par un camion Ben qui l'a foncé dessus en 2018. En 2022, Subhash Kumar Matto qui donc travaillait aussi sur cette mafia du sable qui a été exécuté d'une balle dans la tête. Ou Shashikant Warish, lui, qui a été fauché par un 4x4 et est décédé de ses blessures en 2023. Voilà, donc après, les autres journalistes assassinés en raison de leur activité professionnelle ont été tués pour avoir travaillé sur des questions en lien avec la corruption, le crime organisé, les élections ou l'insurrection maoïste. Et parmi ces victimes, il y a une femme, Gauri Lankesh, donc, qui a été abattue froidement devant sa maison en 2017 par des membres d'une secte proche de la droite nationaliste hindoue. Et cette journaliste travaillait sur la désinformation. Elle avait été la cible d'un harcèlement extrêmement violent de la part de réseaux liés à l'extrême droite.
Pour bien comprendre, Célia Mercier, ce qui se passe en Inde, est-ce que le pouvoir central du Premier ministre Narendra Modi a des responsabilités dans la mort de ces journalistes?
Non, ce sont effectivement plutôt ces mafias, ces groupes criminels qui sont responsables de ces assassinats. Après, ces groupes criminels entretiennent souvent des liens avec des notables locaux et parfois avec la police. Donc, ils sont protégés par les autorités parfois des États indiens.
Vous l'avez dit, à la moitié de ces journalistes tués couvraient des sujets liés à l'environnement. Pourquoi ce sujet est-il si sensible en Inde ?
Ce sont des sujets extrêmement sensibles parce qu'il y a une certaine pression sur les ressources, notamment donc dans le cas du sable, pour des besoins pour les chantiers de construction. Il y a une multiplication de ces chantiers. Et donc, voilà, du fait de la pression sur ces ressources, il y a beaucoup de réseaux criminels en fait qui vont s'en emparer et les exploiter illégalement.
Ouais. À côté de ces morts, Célia Mercier, il y a aussi les journalistes empêchés de travailler. Les autorités indiennes ont refusé des visas à des journalistes qui voulaient couvrir les élections. Hein. Notre correspondant en Inde, Sébastien Farsi, est en difficulté actuellement pour renouveler son permis de travail et il ne peut pas couvrir les élections à cause de cela. C'est assez généralisé, ça, comme pratique en Inde, refuser aux journalistes étrangers un permis de travail.
Oui, effectivement, on voit qu'il RSF le dénonce. Il y a une escalade des mesures de rétorsion envers les correspondants étrangers en Inde. Donc il y a plusieurs cas de journalistes qui étaient établis depuis des années qui se sont vus refuser leur permis de travail. Trois déjà qui ont choisi de quitter le territoire. On peut parler de Vanessa Dunyak qui était en Inde depuis deux décennies, qui était vraiment la plus ancienne correspondante en Inde, qui s'est vu refuser son permis de travail et ensuite menacée d'expulsion. Donc, et en ce qui concerne aussi les visas, on voit qu'il y a des refus de visas, des visas qui sont raccourcis, et également des problèmes d'accès aussi à certaines zones en Inde où il faut des permis spéciaux pour les journalistes étrangers, notamment le Cachemire. Et donc l'accès à ces zones qui nécessitent des permis, les demandes d'autorisation n'aboutissent quasiment jamais.
Que recommande RSF pour protéger les journalistes en Inde ?
Alors, nous avons un certain nombre de recommandations, notamment aussi sur le corpus de loi liberticide qui a été adopté l'année dernière dans le pays pour favoriser la censure, la surveillance des journalistes, pour supprimer des contenus en ligne, vraiment pour un contrôle de l'information, donc une révision de ces lois. Et également une demande pour des dispositifs de protection physique et une protection digitale aussi des journalistes, parce qu'il y a aussi des campagnes de harcèlement, de cyberharcèlement qui sont extrêmement violentes pour diffamer, discréditer les journalistes. Voilà, donc nous demandons de mettre fin à ce type de pratique.
Merci beaucoup, Célia Mercier de RSF, Reporters sans frontières. Le problème de la liberté de la presse, grand problème en Inde pour l'instant. 161e sur 180 dans votre classement mondial de la liberté de la presse. Les élections qui débutent aujourd'hui en Inde et le résultat de ce méga scrutin à un tour qui tomberont le 4 juin prochain, 7h21.